Le défi de la sécurité globale. Le monde contemporain répond aux défis d'aujourd'hui comme s'ils étaient identiques à ceux d'hier. Le résultat, en France comme ailleurs, est désastreux. Des siècles d'histoire ont imposé l'idée que la sécurité était d'abord nationale et dépendait entièrement des capacités de l'État souverain. La menace était naguère celle portée par l'ennemi, stratège et malveillant, proche ou lointain, qui visait à réduire notre puissance au bénéfice de la sienne. Le monde était celui de gladiateurs en combat permanent et de défense nationale qui, à grand renfort de lignes Maginot, devait garantir notre sécurité. Certes, cette menace n'a pas entièrement disparu, mais elle reste potentielle, souvent accessoire, s'effaçant devant des périls autrement plus graves et immédiats, qui ne se combattent plus selon les mêmes recettes et qu'on ne veut pas regarder en face. La cité d'aujourd'hui a pour priorité de les prendre en compte, jusqu'à repenser totalement des politiques publiques désuètes qui ressemblent désormais à des cautères appliquées sur des jambes de bois. Les vraies menaces létales qui pèsent sur notre monde ont été répertoriées par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, dès 1994. La sécurité alimentaire qui tue près de 10 millions d'humains chaque année. La sécurité climatique, qui selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ôte la vie à 8 millions d'entre eux. La sécurité sanitaire, dont on ne parvient même plus à chiffrer les dégâts. La sécurité économique, culturelle, individuelle, institutionnelle, marquant le défaut de normes régulatrices. Face à quoi le terrorisme, qui semble rythmer la vie internationale, tue chaque année 10 000 à 40 000 personnes. Et les guerres interétatiques ont presque disparu. Ces nouvelles menaces ont de surcroît le triste effet de tuer plusieurs fois, par leur létalité directe, par la désorganisation profonde des sociétés qu'elles provoquent et la pauvreté qu'elles exacerbent, par la colère sociale qui se répand sans limite de frontières, par les flux humains qu'elles enclenchent. Mais il faut surtout garder à l'esprit que ces risques globaux non seulement aggravent les conflits présents, notamment le sort des civils qui y sont de plus en plus impliqués, mais qu'ils sont aussi à l'origine directe de la plupart d'entre eux, souvent liés aux effets de désertification, de grande précarité humaine et de désastres sociaux, laissant à la vieille géopolitique le rôle sinistre de simple récupérateur de la violence produite. Face à elle, les belles phrases, ciselées par les conseillers en communication, s'amoncellent, et les réponses gouvernementales sombrent dans la naïveté, voire l'inconscience, de nationaliser des menaces qui sont avant tout globales. Fermer les frontières, additionner 193 politiques souveraines nécessairement contradictoires, et qui ne font ainsi que s'annuler les unes les autres quand elles ne renforcent pas le mal. Depuis l'apparition de la Covid-19, pas une seule proposition n'a émané d'un prince de ce monde pour renforcer les compétences de l'OMS et promouvoir une gouvernance sanitaire globale, couvrant pays riches comme pays pauvres. Les conférences des partis, les COP, à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se succèdent pour produire le triste spectacle de dérisoire Paris sur l'avenir. Ces menaces nouvelles ne sont pas le fait de stratèges ennemis, mais d'un dérèglement du système global. C'est sur des méthodes nouvelles qu'il faut à présent s'engager, résolument tournées vers l'impératif multilatéral et des solidarités inédites. Il faut désormais dépasser les égoïsmes nationaux, les démagogies souverainistes, comme les vieux privilèges, à l'instar de la propriété des brevets couvrant les remèdes de survie. Repenser le monde sur une base nouvelle. Ce que gagne l'autre, je le gagne. Ce qu'il perd, je le perds.